Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 4 octobre 1995.
Et on n'oublie pas de prier Saint-François aujourd'hui, parce que c'est quand même un de nos saints protecteurs qu'on doit aimer tendrement. Et prier pour tous les François, François 1, François 2, François 3, François 4, François 5, je crois. Alors, l'interrogation, qu'est-ce que l'être n'implique-t-elle pas, d'une certaine façon, la négation? Oui, c'est pour dire que la négation est antérieure à l'affirmation. Elle est bien implicite. Cette négation, quand je dis ceci est, moi je ne l'ai pas encore découvert. Quand je dis ceci est, et alors qu'est-ce que c'est que l'être? Ça provient de là. En effet, même si elle se fonde sur le jugement d'existence affirmatif, l'interrogation entend qu'elle isole le est, tu ceci. Dites pas isolé, dites plutôt séparé. C'est plus juste. Parce que isoler est la conséquence de la séparation. Mais ce n'est pas la séparation. C'est très très précis là-dessus, hein, comme activité de l'intelligence. L'interrogation en tant qu'elle isole le est, du ceci est, distingue bien négativement l'être du devenir. Non. Parce que ça voudrait dire que c'est le devenir qui me fait penser l'être. C'est l'être qui me donne l'intelligence du devenir. Et c'est comme si vous vouliez dire que l'acte qui me fait penser, qui me permet de connaître la puissance, implique la négation de la puissance. L'être n'implique pas la négation du devenir. Je sais bien, ça c'est pas commode à comprendre, puisqu'on est bâti dans cette fin du XXe siècle, et que notre intelligence est pervertie, je dis bien, par cette affirmation de la négation de Sartre. On est tous un peu pervertis, ça. Mais c'est bien de poser, justement, parce que ça oblige de voir. Alors, je continue. L'interrogation en tant qu'elle inclut le « est ». Dans le ceci, distingue bien négativement l'être du devenir, l'être de la vie, l'être de l'esprit. Non, l'être s'impose à moi comme il est. Primo cadit in intellectus ens. Saint Thomas dit que lorsqu'il s'agit de l'un, individu, la négation est imprésente. Vous voyez, alors c'est très intéressant comme question. C'est pour montrer la différence entre la connaissance de l'un et la connaissance de l'être. Ceci est parfaitement vrai pour la connaissance de l'un. Alors, tout le néoplatonisme dit que l'un est antérieur à l'être. Alors, pour le néoplatonisme, la négation est impliqué avant l'affirmation. Vous voyez comment le néoplatonisme donne naissance à la primauté de la négation sur l'affirmation. Parce que quand vous regardez l'un, individu, donc la négation est contenue dans l'un, vous ne pouvez pas saisir l'un sans la négation. Tandis que l'être n'implique pas la négation, il est. Et c'est ensuite que vous voyez que le devenir implique la négation. Tout à fait d'accord. Le devenir n'est pas l'être. La vie n'est pas l'être. Mais l'être est. Il est ce que l'intelligence saisit en premier lieu. Et c'est à partir de là qu'elle saisit le reste. Et c'est ça que c'est intéressant. de voir la différence de la connaissance de l'un et de la connaissance de l'être, et de voir que chez les néoplatonistes, chez Platon, l'un est antérieur à l'être. Donc, la négation est antérieure à l'affirmation. Et voilà les petits-fils du néoplatonisme. C'est très intéressant parce que, de fait, quelqu'un comme Heidegger, qui est quand même intelligent et qui connaît bien l'histoire de la philo, et qui était élève de Husserl, et qui a tourné le dos à Husserl, dit que toute la philosophie européenne est une glose du néoplatonisme. C'est vrai. Le néoplatonisme est accepté en Sorbonne. L'aristotélisme, non. Alors, on peut dire que la toile de fond de toute la philosophie européenne, c'est toujours le néoplatonisme. Et en face de cette emprise du néoplatonisme, on essaie de remettre en lumière l'être. Bon, je continue. Si ce que j'ai dit n'est pas suffisant pour celui qui a posé la question, qu'il n'hésite pas, quand il le pourra, de venir la poser personnellement, parce que ça c'est très très important. Vous voyez, émerger du néoplatonisme. On est tous plus ou moins néoplatoniciens. Dès le biberon, on est tous un peu néoplatoniciens. Ce sont des biberons néoplatoniciens qu'on a pris comme nourriture. Et puis, petit à petit, on doit s'éveiller à Thomas d'Aquin, à Aristote, en voyant que le néoplatonisme a manqué d'expérience. C'est subitement l'imaginaire qui l'emporte. Vous voyez, affirmer que l'un est antérieur à l'être, je crois que cela, c'est imaginaire. Mais il faut voir comment c'est imaginaire. Et comment c'est là l'emprise de l'imagination sur l'intelligence. Et que si vous mettez le primat de l'un sur l'être, vous ne pouvez plus en sortir. La négation devient première. Continuons. Avant l'interrogation, il y a l'étonnement, l'admiration de cette relation et à l'égard des divers ceci. Et grâce à cet étonnement, à cette admiration, mon intelligence est en éveil. Mais l'admiration et l'étonnement est d'ordre affectif. Et c'est l'affectivité qui éveille mon intelligence et qui veut que mon intelligence interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Cette interrogation, alors ça, ce serait très intéressant à étudier de très près. Parce qu'on revient à l'interrogation. Merleau-Ponty, dit cette parole intéressante que l'idéaliste, dit le néoplatonicien, n'interroge plus. Seul le réaliste interroge. Le père de l'interrogation en philosophie, c'est Socrate. Il a réveillé l'intelligence en face du sophiste. L'interrogation, c'est l'appétit de l'intelligence qui veut aller plus loin. C'est l'intelligence qui s'éveille pour aller plus loin. Donc, c'est ça l'interrogation. Quand j'interroge, quand un gosse interroge, « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» En voyant pour la première fois le TGV, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ben, il est devant un animal à mille pattes qui avance très très vite. Et qui est quand même un peu dangereux, le petit gosse, à côté de la grosse machine, qui va toute vitesse. Grâce à Dieu, elle est bien dirigée sur deux rails. Mais quand même, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est ? Réfléchissez sur le qu'est-ce que c'est. Maintenant, c'est une chose étonnante. Je dois écrire un article sur la parole de Dieu actuellement et c'est pas commode du tout. Et ça me frappe énormément que lorsqu'on dit Dieu a parlé à Abraham, Dieu dit aucun étonnement. Lorsque Dieu donne la manne, ah, qu'est-ce que c'est ? C'est curieux, hein ? Que lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit quitte ta terre. Pourtant, c'est quelque chose de fameux. Abraham ne pouvait pas dire à quelqu'un qu'est-ce que c'est que c'est bien Dieu qui me dit ça. Il dit, mais dans sa foi. Tandis que lorsqu'ils sont au désert et qu'ils voient la manne, ah, qu'est-ce ? Interrogation. C'est celui qui est au désert, qui a faim. Quand vous avez très faim, vous vous mettez à interroger. C'est pour ça qu'on fait le cours avant le petit déjeuner. Pour que vous puissiez interroger. Venez, qu'est-ce ? Parce qu'on a faim du pain matériel. Et cette faim du pain matériel éveille la faim à l'égard de la vérité. Qu'est-ce ? Alors, c'est très intéressant de voir ce que fait l'interrogation. L'interrogation implique un appétit d'intelligence pour aller plus loin. Or, pour aller plus loin, l'intelligence sépare, divise, distingue. C'est, je crois, la première induction, mais tout à fait naturelle. L'interrogation, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est l'intelligence qui s'éveille. Oui. La philosophie produirait en vous la conscience de la grandeur de l'interrogation. Ce serait déjà beaucoup. Parce que jusque-là, vous avez interrogé sans savoir du tout ce que ça voulait dire. Le gosse interroge de trop, ça vient du tais-toi. C'est un été noir. Le monde d'aujourd'hui nous éteint dans l'interrogation parce qu'on ne veut pas que les gens soient trop intelligents. Tais-toi. Alors qu'au contraire, par l'interrogation, on veut avancer. C'est l'éveil. Or, cet éveil de l'intelligence, ça prouve que l'intelligence a soif de vérité. Et que c'est inné en nous, ça. C'est inné. Ça, c'est le propre, c'est la nature même de l'intelligence. Et pour pouvoir avancer, elle induit une sorte d'induction. Je passe de blanc à blancheur. C'est quand même très extraordinaire, ça, ce passage de blanc à blancheur. Qu'est-ce que c'est que la blancheur ? Le blanc, c'est le blanc du mur. Si j'isole le blanc du mur, après plusieurs expériences, puisque la neige est blanche, puisque la chemise peut être blanche, puisque le visage peut être blanc, puisque le voile peut être blanc. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Qu'est-ce que c'est que blanc? Alors, pour passer du concret à l'abstrait, ce que nous faisons tout le temps, regardez la langue allemande, c'est une langue constamment de l'abstrait. Le grec est une langue du concret. Le latin est une langue de l'abstrait. C'est très curieux de voir ça. Et c'est très intéressant. Parce que ça montre très bien que mon intelligence, elle est toujours du visible à l'invisible. Le livre posthume par rapport à Merleau-Ponty, c'est du visible à l'invisible. Et c'est très beau. J'aime beaucoup ce titre. Parce que c'est ça l'induction. Du visible à l'invisible. Blanc du mur, c'est visible. La blancheur n'est pas visible. Vous n'avez jamais vu de la blancheur. Alors, c'est très curieux. Comment je pose, qu'est-ce que c'est que la blancheur? Je ne l'ai jamais vue. J'ai vu le blanc. Voyez comment facilement on devient platonicien. Puisque, qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est le blanc en soi. Est-ce que Platon ne cherche-t-il pas toujours la forme en soi? Platon, c'est l'homme de la blancheur. C'est l'homme des formes en soi. Le passage du concret à l'abstrait, du visible à l'invisible. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur, j'ai l'expérience du blanc. Il y a un passage extrêmement important. Et qu'est-ce que ça représente, ce passage? C'est l'intelligence qui cherche à se découvrir dans son autonomie. Seule l'intelligence connaît la blancheur. Saisit la blancheur comme une forme en soi, comme une forme distincte de toutes les expériences multiples que j'ai du blanc. Et plus j'ai d'expériences du blanc, plus la blancheur aura une signification profonde et riche. Parce qu'au fond, la blancheur implique toutes les significations de toutes mes expériences du blanc. Quand je passe de blanc à blancheur, mon intelligence s'éveille comme intelligence séparée, comme intelligence qui n'est plus ligotée, liée, dépendante des sens, dépendante des sensations, dépendante de l'expérience. L'intelligence saisit dans l'expérience quelque chose qu'elle peut seule saisir. Voyez bien, c'est l'appétit naturel de l'intelligence qui n'est pas lié au corps. C'est pour ça que c'est si impressionnant. C'est l'appétit de l'intelligence qui veut aller plus loin tant qu'elle est liée aux sensations. Mais elle reste liée aux sensations. Tandis que lorsque elle réfléchit pour pénétrer plus avant dans la réalité, intus legere, c'est ce que dit saint Thomas quand il parle de l'intelligence, lire de l'intérieur. Alors c'est très curieux de voir que quelqu'un comme Ricoeur, qui est quand même très loin de Thomas d'Aquin, qui ne le connaît pas, Ricoeur, le penseur des protestants français et suisses. Ricoeur dit, l'intelligence, c'est lire de l'intérieur. Là, il y a un point de contact. Et c'est vrai. Et ça, lire de l'intérieur, c'est l'esprit. C'est à cause des organes sensibles que les saisissent de l'intérieur. Donc c'est l'immanence conquérante, victorieuse de l'intelligence qui veut lire de l'intérieur. Dieu seul lit tout de l'intérieur. Il a une connaissance parfaite de l'intérieur. En se connaissant, il nous connaît. Et c'est ça la lecture la plus parfaite de la lecture intérieure. Vous voyez ? La séduction que Hegel a sentie. Lire de l'intérieur, c'est la pensée de la pensée. Ça, c'est la parfaite lecture de l'intérieur. C'est la lecture la plus parfaite de l'intérieur. Et c'est terriblement séduisant. Parce qu'au fond, il n'y a que là où mon intelligence est parfaitement elle-même. Alors, vous voyez, l'interrogation, c'est l'intelligence qui veut sortir de la caverne. De la caverne de Platon. L'homme est lié au sens. Et parce qu'il est lié au sens, il est dans une caverne, parce qu'il voit tout l'extérieur. Il veut se libérer de ça. Et il y a en lui un appétit naturel pour regarder les choses, non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est, je crois, cela qui est le caractère propre de l'interrogation. Et c'est capital de comprendre l'interrogation la plus radicale qui soit. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous ne pouvez pas avoir une interrogation plus radicale que celle-là. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous partez du jugement d'existence, ceci est. Vous multipliez la diversité de ces jugements d'existence. Vous êtes dans l'étonnement. Le ceci varie et être ne varie pas. Comment ça se fait ? Il y a là quelque chose d'anormal. Comment elle domine tellement tous les soucis ? Alors, qu'est-ce qu'il est pour dominer tous les soucis ? Pour faire ce dépassement étonnant de toutes les déterminations, de toutes les formes ? Parce que ceci implique une forme, et une forme individuelle. Voilà que toutes ces expériences me montrent qu'il y a quelque chose qui domine et je l'exprime dans le langage comme un signe. Et c'est vrai, quand je dis la vache existe, j'existe, le chat existe, qu'est-ce que c'est que cet exister qui domine tous les soucis ? Oui, comment l'admiration suscite l'interrogation et entraîne l'interrogation. Et quand il n'y a plus d'admiration, on est blasé. Oh, c'est comme ça. On n'interroge plus. Oh, très bien, l'homme blasé. Et on est très vite blasé. Le noviciat, c'est pour faire de vous des hommes non blasés. Alors il faut, à la paille de fer, supprimer toutes les expériences antérieures. Et puis, redécouvrir ce qu'il y a de plus intime, de plus profond en vous, ce désir naturel de connaître la vérité. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Oui, là, je crois qu'il y a quelque chose auquel on doit être très attentif. Et je vous dis, toute la philosophie contemporaine revient à l'interrogation. Ça, c'est peut-être par là qu'elle va retrouver une philosophie réaliste. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je passe du concret à l'abstrait, selon le langage. Le verbe concret, c'est le présent. Le verbe abstrait, c'est l'infinitif. L'infinitif donne au verbe une possibilité d'être un nom. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc je regarde en lui-même et pour lui-même. Tandis que quand je dis Pierre existe, je regarde Pierre et l'exister est en Pierre. Qu'est-ce que c'est que l'être ? À Alors, c'est ici où nous nous séparons de tous les néoplatoniciens et de Heidegger. Heidegger se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et pour lui, la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est la métaphysique. La métaphysique commence à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Tant que je n'ai pas posé, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne suis pas entré en philosophie première. Alors, j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? Quelle est la signification profonde de l'être au-delà de toutes les déterminations quantitatives, au-delà de toutes les formes particulières, individuelles. J'ai donc là un désir de connaître d'une manière qui n'est plus la connaissance quantitative. La connaissance par les prédicats, genre, différents spécifiques, espèces. Connaissance normale, habituelle. Connaissance qui demeure directement liée à mes expériences. Je dis, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, pour Heidegger, je ne peux pas répondre à cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? En revenant à mon expérience, je ne peux répondre à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'en réfléchissant sur ma pensée. Puisque qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'intelligence qui pose la question. Il faut donc réfléchir sur l'intelligence. Pensons l'être pour découvrir ce que c'est que l'être. Et je dis bien, réfléchir sur l'intelligence, pensons l'être. Cogito ergo sum. Voyez que là, Heidegger ne dépasse pas Descartes. Cogito ergo sum. C'est la pensée qui va me faire connaître ce que c'est que l'être. C'est penser l'être qui est la chose la plus importante. Ce n'est pas l'être, mais penser l'être. Pourquoi Heidegger dit-il ça ? Parce que je vois que tout de suite, je retourne vers une position idéaliste. La pensée est antérieure à l'être. Et c'est par la pensée que je vais découvrir l'être. Comment se fait-il que Heidegger, qui a un désir de réalisme, redécouvrir l'être. On a oublié l'être. Il ne voit pas qu'il tombe dans le panneau. Puisque la pensée, c'est le bois qui avale l'être. Et vous ne découvrez plus l'être qu'à travers la pensée. Donc, vous oubliez l'être. Vous ne regardez plus l'être pour lui-même. Mais c'est ce que Sartre dit, lui, alors, très calmement. Il y a l'être en soi. Et puis il y a l'être pour soi. Penser l'être, c'est l'être pour moi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à travers la conscience de ma pensée que je découvre l'être. Ça, dit ça. Tandis que l'être en soi, c'est le manche à balai, dit-il. Il prend ça matériellement. C'est le manche à balai, c'est l'étang. Allez, on retrouve l'étang. L'étang, c'est des réalités matérielles. C'est toutes celles que je peux toucher. C'est toutes celles que je vois. C'est le visible. La division que fait Sartre entre l'être en soi et l'être pour soi. Heidegger, qui n'aime pas tellement Sartre. Quand Sartre a dit qu'il était heideggerien, Heidegger a dit pas du tout. Sartre n'a pas connu, pas compris ma pensée. De fait, il y a quelque chose de commun, vous voyez. Tous les deux n'ont pas dépassé Descartes. Et tous les deux ont cette conviction, sans se l'expliciter, qu'on ne peut pas séparer penser et être. Qu'il y a pensée ne peut être pensée qu'en réfléchissant sur ce qu'elle est. Et non pas la pensée est premièrement ordonnée à connaître l'être qui n'est pas la pensée et qui est antérieur à la pensée. Donc il reste enfermé dans la pensée. Et c'est pour cela que Heidegger considère que quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», il faut réfléchir sur ma pensée pour découvrir l'être. Parce que pour lui, entre ceci et donc le ceci qui existe, et qu'est-ce que c'est que l'être ? Il n'y a pas seulement une distinction, mais il y a une séparation. Alors là, est présente. L'être n'est pas l'étant. Pour Heidegger, c'est naître. L'être n'est pas l'étant. L'étant, c'est ce que je connais directement. Tandis que l'être, c'est ce que je n'atteins que par mon, que par ma pensée, que par mon intelligence. Autrement dit, pour Heidegger, tous les étants, toutes les réalités que j'expérimente, sont limités, sont sensibles. L'être, c'est l'intelligence qui lui permet, dans la mesure même où l'intelligence pense l'être, c'est l'intelligence qui lui donne d'être ce qui doit être. C'est la pensée scientifique. L'être, c'est la pensée de l'ontologie fondamentale. C'est la pensée propre à la philosophie première. C'est mon intelligence qui sépare l'être de l'étant en disant l'être n'est pas l'étant. Il est ce qui apparaît dans la mesure même où mon intelligence le connaît. Par le fait même, je ne peux plus séparer l'être de sa manière d'être pensé. C'est le vécu de l'être que je regarde. C'est mon vécu de l'être. Et ce n'est plus l'être. Si c'est le vécu de l'être que je regarde et non plus l'être, c'est évidemment en réfléchissant sur ma manière de connaître que je peux découvrir l'être et je ne peux pas le découvrir autrement. Puisque l'être naît, apparaît dans ma manière de connaître. Thomas d'Aquin, quand il critique le néoplatonisme, dit que les néoplatoniciens n'ont pas distingué la manière dont on connaît de ce qui spécifie ma connaissance. Thomas d'Aquin a critiqué prophétiquement Heidegger en voyant que Heidegger était néoplatonicien. Et là, il y a quelque chose de très important à saisir. C'est pas commode, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pas étonnant qu'au début on comprenne pas. Mais c'est bon de l'entendre, de le réentendre, et puis la troisième fois, on comprend. C'est comme ça. Hein. Faut dégraisser notre intelligence. C'est la graisse, c'est l'imagination qui fait que l'intelligence ne tombe pas. Elle avance comme un éléphant, oh là là, avec des grosses pattes. Vous voyez, la manière dont Heidegger ne voit pas la distinction entre distinguer et séparer. Séparer implique toujours l'exister. On sépare deux réalités. Distinguer, c'est l'intelligence qui est capable, ayant saisi quelque chose, l'être, de distinguer l'être de sa manière d'exister dans l'étang. Mais l'étang existe. Si l'étang existe, l'intelligence peut saisir dans l'étang ce qui est, sans le séparer, puisque cet exister n'existe que dans cet étang, donc on ne peut pas le séparer. N'ayant pas saisi la distinction entre séparer et distinguer, Heidegger, par le fait même, quand il dit penser l'être, présent dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Penser l'être, c'est justement découvrir ma pensée à l'égard de l'être, c'est-à-dire mon vécu à l'égard de l'être. Ça peut vous paraître un peu subtil, j'allais dire, c'est, je crois, ce qui est capital de comprendre face à Heidegger. Alors, comme Heidegger est quand même le philosophe qui a un désir intense de retrouver l'être, on a oublié l'être, on l'a mis dans la fosse, on l'a mis dans l'abîme, on a oublié l'être depuis Descartes. Et il veut le redécouvrir, mais il ne le redécouvre pas, puisque de fait, il ne distingue plus penser l'être et l'être. Il ne distingue plus la manière dont je connais l'être et l'être lui-même. Il ne distingue pas la cause efficiente de ma connaissance et ce qui détermine ma connaissance, la spécification de ma connaissance. Il ne fait plus la distinction entre la cause efficiente et la cause formelle qui spécifie et qui détermine. Et c'est là où je me sépare de Heidegger. Parce que quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» parallèlement, « qu'est-ce que c'est que la blancheur ?» Si quelqu'un vient vous dire « qu'est-ce que c'est que la blancheur ?» Bon, regardez le dictionnaire. La blancheur, ce par quoi une réalité est blanche. Ce par quoi une réalité est blanche. Ce par quoi. Ce par quoi, c'est le principe. Donc la blancheur est le principe du blanc. Elle est antérieure dans sa signification au blanc. Mais comme je n'ai pas l'expérience de la blancheur, je dis, de nouveau, faites l'expérience du blanc. Regardez ce que c'est qu'un mur blanc. Regardez ce que c'est que la neige blanche. Regardez ce que c'est qu'un visage blanc. Je reviens à l'expérience. Quand je pose la question, qu'est-ce je reviens à l'expérience, puisque l'être, je ne le connais qu'à partir du chemin d'existence. Ceci est. Donc, vous voyez que pour une philosophie réaliste qui distingue le vécu de l'intelligence et ce que l'intelligence connaît, il faut beaucoup réfléchir là-dessus, hein. Le vécu de l'intelligence et ce que l'intelligence connaît. Le vécu de votre intelligence, c'est votre connaissance. Et dans cette connaissance, vous découvrez ce que vous connaissez. Et vous mettez les deux ensemble, sans vouloir les distinguer. Tant que je ne distingue pas le vécu de mon intelligence et ce que l'intelligence connaît, quand je pose l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux faire qu'une seule, je n'ai qu'une seule voie, réfléchir sur ma pensée, penser l'être. Et je ne sors pas de ma pensée, et je ne sors pas de mon intentionnalité, puisque penser l'être, c'est au niveau intentionnel. Ces lettres n'existent que dans mon intelligence. Et mon intelligence connaît tout intentionnellement. C'est important de voir ça. Si, au contraire, j'ai distingué penser l'être et ce qu'est l'être. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je peux revenir à toutes mes expériences, mais d'une manière nouvelle, avec une exigence intellectuelle nouvelle. C'est ce qui m'intéresse à travers toutes les expériences que je fais, des réalités, je suis. Ce qui m'intéresse, c'est découvrir l'être dans ce qu'il a de pur, dans ce qu'il a de premier. Parce que quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je veux saisir ce qu'il y a de premier dans l'être. Alors, est-ce que ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est ma manière de le connaître? Seul Dieu peut dire ça. Et si je le dis, je me mets à la place de Dieu. C'est ce que font tous les néoplatoniciens. Ils se mettent à la place de Dieu. C'est ce que fait Heidegger. Il se met à la place de Dieu. Dieu seul peut dire que l'être, c'est ce que Dieu pense en sa sagesse. C'est la forme la plus éminente de l'être. Il existe en Dieu. Et je dis bien l'être, il existe en Dieu. Dieu l'a pensé dans sa sagesse. C'est pour ça qu'il a créé. Parce que Dieu, c'est pas l'être, c'est Dieu. Ne dites pas que l'être c'est Dieu, hein, ça ce serait très gros. Ne dites pas que l'être en acte c'est Dieu. Non, non. Dieu c'est Dieu. Je suis. Et c'est pour ça qu'il dit Dieu, je suis. Dieu dit pas, je. Mon nom, l'être. Ah non. Il dit je suis. Il y a grand Dieu où l'être s'identifiant au jeu de Dieu acquiert une noblesse éminente. L'être en Dieu n'est pas diminué parce qu'il est pensé par Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité. Dieu est absolument simple. Tout est lui. Il n'y a qu'en Dieu où l'être peut habiter d'une manière éminente, sans être diminué. Tandis que quand l'être habite dans ma pensée, il habite dans une petite demeure, intentionnellement. Et l'être est plus que l'intentionnel, il est source de l'intentionnel. Puisque pour moi, dans le réalisme de ma pensée, l'être est plus que ma manière de le connaître. Je veux connaître ce qu'est l'être au-delà de ma manière de connaître, donc au-delà de l'intentionnalité. Pour découvrir ce qu'est l'être. Voilà la grande question. Et pour cela, je retourne à l'expérience, puisque seule l'expérience me met en contact direct avec ce qui est. Donc voyez bien comment l'interrogation dans une philosophie réaliste, loin de me séparer de l'expérience, me fait revenir à l'expérience, mais dans une nouvelle lumière. Quand je pars de l'expérience au point de départ, je regarde tout ce qui est expérimenté. Ceci est la vache, elle existe. La vache intéresse la philosophie première dans la mesure où elle existe, pas comme vache. Il n'y a pas une métaphysique de la vache. Il y aurait une métaphysique de la vache si la vache était sacrée. Alors là, il y aurait une métaphysique de la vache. Mais si la vache n'est pas sacrée, il n'y a pas de métaphysique de la vache. Mais le métaphysicien s'intéresse à la vache, elle existe. C'est un animal qui existe. Elle existe drôlement, peut-être. Je ne dis pas que Dieu est une super vache, non. Non, je ne peux pas dire ça. Donc elle existe d'une manière tout à fait matérielle. Elle existe. Et quand je reviens à l'expérience de la vache, j'ai l'expérience de ce qui est dans la vache. Dans le devenir, dans la croissance de la petite vache qui vient de naître, le bébé vache. Puis il grandit, ce bébé, et grandit vite. Il est vite sur ses quatre pattes. Et la grosse vache, la grosseur de la vache cache de plus en plus son être. Parce que je ne vois plus que la grosseur de la vache. Et si elle grossit trop, elle éclate. Et l'être disparaît. C'est curieux comme la quantité cache la qualité. Et l'être est du côté de la qualité. C'est du côté de la qualité, c'est pas du côté de la quantité. Quand la quantité est trop forte, elle cache l'être. Je reviens à l'expérience, dans la lumière de mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et parce que je reviens à l'expérience, dans la lumière de mon interrogation, je découvre dans l'expérience autre chose que j'avais regardé au point de départ. Parce que au point de départ, le devenir et l'être sont unis. Dans la même réalité. Quand j'interroge, mon intelligence saisit dans la réalité existante, quantitative, impliquant le devenir, je ne regarde que l'être. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, c'est cela que je crois très intéressant à voir. Autrement dit, ce qui est l'être au présent et l'être à l'infinitif. Point de vue grammatical. Est-ce que ces deux modalités de l'être ont-elles la même signification ? Posez-vous la question loyalement. Le langage est un signe, donc il faut dépasser le langage et revenir à l'expérience. Quand je dis Pierre est bon, la vache est bonne, ce cheval est bon, l'araignée est bonne, sauf quand elle me pique. Autrement, elle est bonne. Que toutes les réalités sont bonnes, valde bonum. Dieu dit ça quand il crée l'homme, c'est tout à fait bon. Mais toutes les autres réalités aussi sont bonnes. Elles sont bonnes dans la mesure où elles existent. Et quand j'essaie à partir de là de découvrir qu'est-ce que c'est que la bonté, est-ce que la signification de la bonté et la signification de bon, c'est la même? Est-ce que la signification de blanc et de blancheur est la même? J'ai dit oui, puisque la signification de la blancheur vient de ce qui est blanc. La signification de la bonté vient de ce qui est bon. La signification de être vient de ceci est. Donc c'est la même signification, mais selon deux modalités différentes. Mais la ratio qui regarde la signification, la ratio de l'être, est la même dans ceci est et l'être. C'est la même signification selon deux modalités différentes. Heidegger n'a pas distingué telle modalité, la plus parfaite qui soit, penser l'être, de l'être, de la raison d'être.